Je ne comprends pas, cette fichue radio fonctionnait très bien il y a 2 secondes et maintenant je n'en tire plus rien du tout.
Radio Campus 88.3.
Remarquez, ça vient peut-être de l'antenne, tout ça peut.
Quelle expérience qui fera date dans les annales de la radio.
La population orléanaise écoute le 88.3 FM.
C'est stupide, voilà, maintenant je bloque.
Ta fac. Tous les jours de midi à 13h sur Radio Campus. Écoute ta fac, c'est des reportages, des chroniques, de la musique, mais surtout de la bonne humeur. On va la refaire celle-là ?
Bonjour à toutes et à tous, il est midi sur Radio Campus. Orléans, vous êtes bien dans Écoute ta fac et Roanne au micro. Je suis ravi de vous retrouver jusqu'à 13h pour cette nouvelle édition d'Écoute ta fac. On est le mercredi 25 janvier 2023. Au programme aujourd'hui, en seconde partie d'émission, on partira à la découverte de Rosa Parks au travers d'une chronique que nous propose Nesrine, qui était avec nous en stage la semaine dernière. Et vous aurez également l'occasion de la retrouver demain pour une deuxième chronique autour d'une autre femme qui a marqué l'histoire du 20e siècle, Mata Hari. Donc restez branchés à l'antenne de Radio Campus aujourd'hui et demain. En première partie d'émission, dans quelques minutes, on aura l'occasion et le plaisir de recevoir Martin Baudrero. Il est journaliste et cofondateur du média Radio Parleur, un média qui est militant, qui est engagé, et on aura l'occasion de l'écouter tout à l'heure. Mais pour l'heure, il est mercredi et comme tous les mercredis, j'ai le plaisir de recevoir Lucie et Kevin avec moi en plateau. Bonjour à vous deux.
Bonjour.
Pour l'agenda du Crous, et on commence avec une soirée de dessin de bande dessinée.
Exactement, ça sera ce soir donc de 19h30 à 21h30 au foyer des Dahlias. Vous pourrez explorer votre imagination et découvrir cette phase de la pop culture.
Une autre soirée, débat à thème.
Exactement, lundi 30 donc au Dahlias également de 19h30 à 21h30. On vous proposera plusieurs sujets qui mènent à quelques débats sur lesquels vous pourrez défendre votre opinion ou même la changer.
Et une autre soirée, cette fois, lutte contre les discriminations, Kevin.
Cette fois-ci du coup, ça sera un atelier d'introduction à l'histoire de la communauté LGBTQIA+. Au foyer des Dahlias de 20h à 22h, où, en groupe, vous serez amené à vous exprimer et à partager votre vision d'une notion, c'est-à-dire d'un mot, grâce à une feuille canson.
Ça, ce sera aux Dahlias. Et pendant ce temps-là, aux Ormes, vous aurez l'occasion de me retrouver pour une soirée de présentation du semestre de Radio Campus Orléans. Étudiants et étudiantes des résidences Crous, vous aurez l'occasion de pouvoir participer également à toutes les activités qu'on propose à Radio Campus. Donc, n'hésitez pas. C'est à partir de 19h, si je dis pas de bêtises.
Je dirais même 20h.
Tu diras même 20h. C'est 20h, 22h. Tu vois, tu connais mieux les horaires que moi. Et enfin, une soirée crêpe.
Exactement, donc on se retrouvera tous le 1er février à la cuisine du rez-de-chaussée des Andes de 19h30 à 21h30 également. On vous a de venir tester vos compétences en cuisine avec une simple recette de crêpes que vous pourrez évidemment déguster pour fêter la Chandeleur.
Voilà, merci beaucoup pour cet agenda. Je crois en plus que dans quelques jours sera lancée la campagne DSE pour les boursiers et les boursières. Donc n'oubliez pas d'aller faire votre dossier donc, sur le site du Crous, voilà, messervicesetudiants.gouv.fr. Merci beaucoup Kevin, merci beaucoup Lucie d'avoir été avec nous ce midi à l'antenne de Radio Campus Orléans. Se donne évidemment rendez-vous la semaine prochaine, même lieu, même heure. Écoute ta fac, ça continue dans quelques minutes ça. Écoute ta fac.
Okay.
Let's do it.
Radio Campus.
Radio Campus, that's how we do it.
Vendredi 27 janvier, c'est Apéro Duo avec Radio Campus qui accueillera la Grande Triple Alliance Internationale de l'Est.
Un collectif artistique, informel et iconoclaste né entre Metz et Strasbourg à la fin des années 2000.
Apéro Duo. Rendez-vous à partir de 19h pour la projection du documentaire La Grande Triple Alliance Internationale de l'Est, réalisé en 2022 par Nicolas Hurol et Guillaume Marietta.
Et à partir de 21h, concert avec
CXAXB,
Rythme et Orient.
Plus connu sous le nom du NAS, il présentera son nouveau projet orienté vers l'Orient et la distorsion de ses rythmiques. Acide,
transdromoise,
ce chaman fera exploser vos chakras de post-punk avec son live mi-trans, mi-crowd.
Et en interplateau,
DJ Alexia Jeunesse, productrice de l'émission In The Garage, elle saura vous ambiancer avec ses sélections pointues évoluant entre garage et post-punk.
Alors rendez-vous 108 de la rue de Bourgogne de 19h à minuit pour ce premier apéro audio de 2023.
Plus d'informations sur orléans.radiocampus.org.
Radio Campus Orléans.
www.orléans.radiocampus.org.
Pub.
Le samedi 4 février prochain, l'Université d'Orléans ouvre ses portes à ses futurs étudiants et étudiantes.
Rendez-vous de 9h à 17h30 à l'accueil central situé à la Bibliothèque universitaire de sciences
pour découvrir les formations et les services dédiés à la vie étudiante.
Langue, sciences humaines,
droit, économie,
sciences,
géologie,
kinésithérapie,
éducation et professorat,
ingénierie,
sport
et un département de la formation médicale.
Viens trouver ta formation pour la rentrée. Toutes les composantes sont ouvertes.
Plus d'informations sur www.univ-orléans.fr.
Radio. Campus.
Écoute ta fac.
Radio Campus.
I can hardly breathe, can't stop the rain pouring in me. In the dark, we're alone, me, myself, and the wreck of my soul. The clouds up above me,
Abattu avec leur titre The Wreck of My Soul sur Radio Campus Orléans. Vous êtes toujours dans Écoute ta fac, il est exactement 12h09.
Écoute.
C'est l'invité d'Écoute ta fac.
Écoute ta fac.
Aujourd'hui, je suis avec Martin Baudrero. Martin, qui est journaliste et cofondateur de Radio Parleur, un média qui est libre, engagé, qui a été fondé en 2016. Bonjour Martin.
Bonjour, merci de me recevoir.
Alors aujourd'hui, je suis également avec Léo. Donc Léo, tu es bénévole à Radio Campus, tu es également étudiant en première année de licence d'histoire. Bonjour à toi.
Bonjour.
Et tu vas m'épauler au cours de cet entretien avec Martin. Alors Radio Parleur, aujourd'hui on t'invite aujourd'hui Martin, ce qui est une actualité autour de Radio Parleur. Alors évidemment, des actualités, vous en avez régulièrement hein, sur votre site, c'est radioparleur.net. De nombreux reportages qui sont, je le disais, engagés, citoyens, on en parlera également au cours de cet entretien. Mais vous êtes en pleine recherche de financement.
Ouais, exactement, on est en pleine recherche de financement. Alors en fait, on vient de officiellement terminé notre campagne de dons de fin d'année qu'on fait chaque fin d'année. On a récolté 12 600 euros, mais en fait, on est toujours en recherche de financement parce que le principal financeur de Radio Parleur, bah, c'est les gens qui nous écoutent, c'est les personnes qui s'intéressent à nos podcasts et les gens du grand public et les donateurs, donatrices. Et du coup, on a besoin tout au long de l'année de ce soutien qui nous permet d'être libre, d'être indépendant, notamment en ce moment face à la concentration des médias, de ne pas dépendre d'un milliardaire, d'une personne précise qui aurait des intérêts qui ne sont pas ceux de notre ligne éditoriale.
Alors justement, tout ce qui est liberté éditoriale et les modèles économiques des médias comme Radio Parleur, on en parlera aujourd'hui lors de cet entretien. Mais d'abord, Radio Parleur prend source en 2016 au cœur de Nuit Debout. Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus ?
Ouais, on est en 2016, à l'époque François Hollande est président de la République, et un mouvement s'installe Place de la République contre une loi qui se nommait la loi travail à l'époque, qui s'appelait Nuit Debout, une occupation de cette place renouvelée tous les jours. À partir du 31 mars, c'était un 31 mars, et ensuite on a compté les jours 32, 33 jusqu'à, je crois, 125 mars, ou un truc comme ça. Et l'idée, c'était que ça ne se terminait jamais. Et dans ce cadre-là, on était à l'époque trois journalistes pigistes, on pigeait dans d'autres endroits, donc Violette Voldoir, Tristan Goldbraun et moi. Et on s'est intéressé à ce qui se passait sur la place, et on s'est dit, notamment via une radio que vous connaissez bien, Radio Campus Paris, on traînait un peu, on faisait pas mal de choses, on s'est dit. Ça se passe à trois rues de chez Radio Campus Paris, qui est installée Place de la Bastille, et c'était Place de la République. On est à 500 mètres, hein, à peu près. On doit aller faire au moins une émission. Et quand on est arrivé sur place, en fait, il y avait déjà un studio installé par des gens des fictions de France Culture, notamment Alexandre Planck, qui est un créateur sonore. Et en fait, on s'est dit, on ne va pas faire 12 studios les uns à côté des autres, on va en faire ensemble. Et on est parti comme ça pour quasiment trois mois d'émissions en direct. Tous les soirs, des directs via streaming, hein, c'était du streaming via Internet. Et comme ça, voilà, création de choses au fur et à mesure. Voilà.
Donc vraiment de la radio linéaire comme on peut l'entendre aujourd'hui.
Ouais, c'est ça, on démarrait le direct à partir de 19h en général et ça durait jusqu'à minuit avec des invités, des gens qui passaient sur la place. À un moment, beaucoup de gens passaient sur la place. On a pu avoir Alain Damasio, on a pu avoir François Ruffin, des philosophes comme Barbara Stiegler, plein de gens très différents. Et aussi, des gens ont passé des extraits aussi des discussions qu'il y avait sur la place, qu'il y avait une sorte de groupe, on pouvait venir prendre la parole, en fait. C'était vraiment une des idées de Nuit Debout. Et voilà, ça a duré de trois mois. Puis à partir du mois de juin, vu que c'était une radio de mouvement, quand le mouvement s'est étiolé, la radio, c'est aussi un peu étiolé, forcément, moins de gens qui viennent, plus de fatigue, parce que c'est très physique et tout. Mais à ce moment-là, on était quand même à des, je ne saurais plus dire, mais entre 6 et 10 000 personnes par jour qui écoutaient ce live. Donc, on avait vraiment mordu dans quelque chose.
C'est énorme.
Voilà. On avait mordu dans quelque chose, quoi. Et du coup, on est plusieurs journalistes, plutôt les plus précaires, à s'être dit, continue, faisons de Radio Debout un média. Bien sûr, puisque c'était un collectif de gauche, ça n'a pas marché, on s'est engueulé, comme tous les collectifs de gauche. Mais une partie de l'équipe, notamment donc Violette, Tristan et moi, on s'est dit, relançons quelque chose, changeons le nom, et avant ça, du coup, Radio Parleur, le son de toutes les luttes. Au début, on s'est lancé assez simplement, hein, c'était une émission bénévole de Radio Campus Paris, une mensuelle, on faisait. Et très vite, on a fait un site internet, on a commencé à produire des sons sur le net, des podcasts, et on a vu que ça marchait pas trop mal, du coup, on s'est lancé plus, et finalement, c'est devenu un média
à part entière.
Bien installé dans le temps, voilà, un média à part entière. Là, on en est à 6 ans d'existence, ça fait 3 ans qu'on a des salariés qui se payent en CDI. On est aujourd'hui 4 salariés et voilà, c'est vraiment une belle aventure qui s'est installée et on travaille avec des salariés, des gens bénévoles qui viennent participer au projet, se former à la radio auprès de nous, au podcast et tout, et aussi des services civiques, des apprentis. Voilà, c'est assez varié, on joue comme beaucoup d'assos, hein, de toutes les possibilités, mais il y a une vraie effervescence régulière autour du projet et je crois qu'on a réussi à s'installer comme le média de podcast du milieu des médias indépendants, quoi.
Aujourd'hui, il y a toujours une émission mensuelle sur Campus Paris ?
Non, malheureusement, on n'est plus présent sur Campus Paris. On a été longtemps présent avec une émission chaque semaine, qui était une sorte d'émission de création sonore, l'hebdo-parleur, qui faisait un résumé de la semaine un peu drôle. Là, ces derniers temps, on s'est un peu éloigné, notamment parce que nous-mêmes, on a dû un peu se recentrer sur notre activité. Parce que c'est beaucoup de boulot et c'est assez fatigant et puis surtout en ce moment je reviens aux questions du financement, mais c'est beaucoup de travail pour trouver des financements, maintenir une activité et maintenir un média en accès libre et indépendant.
Alors justement, l'indépendance qui est au cœur de la démarche. Alors au début, donc émission de radio sur Campus Paris, puis petit à petit glissement vers la création de ce média Radio Parleur, qui aujourd'hui est un studio donc indépendant de podcast. Donc je le disais juste avant qu'on débute l'enregistrement, nos amis québécois en fait appellent ça des balados plutôt que podcast. Déjà, t'en penses quoi de ces termes ?
Balado ou podcast ?
Ouais, juste balado.
Moi, je l'ai vu émerger, j'étais à Montréal, j'ai vécu à Montréal en 2011-2012 et c'est là que j'ai découvert un peu les balados et le podcast un peu aussi en même temps, même s'il y avait eu un peu une mode avant, Arte Radio s'est créé un peu avant.
C'est quoi la différence du coup entre les deux, entre le balado et le podcast ?
Je crois que c'est la fierté des Québécois à maintenir une langue française, la première, et ils y tiennent beaucoup, ils ont raison. Je pense qu'il y a une idée dans le balado qui est marrante. Je ne sais pas si c'est une différence de format, il y en a plein, mais j'aime bien ce mot de balade quoi, qui traîne dans balado diffusion. Qu'on n'a pas forcément dans podcast, qui n'est pas du tout une sorte de mot un peu américain racine. Mais moi, j'aime bien cette idée qu'on se balade. Nous, à Parleur, c'est très important pour nous. Je pense qu'on est un des studios de podcast, si on se compare aussi à l'autre monde auquel on appartient un peu malgré nous, qui sont ceux des studios de podcast indépendants, Binge, etc., Nouvelles Écoutes, qui sommes le plus attachés au fait de sortir sur le terrain, d'aller prendre le pouls des choses, d'aller se balader, vraiment, et de sortir d'un studio. Du coup, par exemple, aujourd'hui, toutes nos émissions sont en dehors de nos studios quasiment. C'est assez rare pour nous de faire une émission dans un studio. On le fait avec du matériel qui nous permet de le faire. Typiquement, on a enregistré la semaine dernière une émission qui sort fin janvier sur l'autodéfense numérique et on était dans les locaux de la Quadrature du Net. C'est typiquement un exemple de choses qu'on fait. Donc voilà, je pense que ce côté balade, moi j'aime beaucoup dans l'idée de balade aussi.
Alors justement, quand on produit également ce que j'ai diffusé sur Radio Campus Orléans il y a quelques jours maintenant, c'était Belle Île Express, où là, pour le coup, on a une sacrée belle balade, justement.
Alors, ouais, Belle Île Express, c'est un bon exemple de ce qu'on peut faire sans que ce soit forcément notre talent à nous, même si on a accompagné. C'est des choses qui sont faites par des gens qui viennent en projet, qui viennent en bénévole, quoi, qui ne trouvent peut-être pas souvent ailleurs la place pour faire ce qu'ils ont envie. Et là, typiquement, Belle Île Express, bon, y a une salariée qui est Violette Voldoir, mais Étienne Gracianette, c'est un technicien réalisateur sonore qui s'est rapproché de nous parce qu'il n'arrivait pas à faire le truc qu'il éclatait quoi, dans d'autres médias, d'autres trucs. Et aujourd'hui, il est très proche de nous et il participe beaucoup à ce qu'on fait.
Alors justement, donc là, on était plus sur une création du coup plus fictionnelle. Le cœur de Radio Parleur, après, c'est des reportages, c'est des analyses. Et vraiment, la cible de ces sujets, c'est la couverture des luttes sociales et écologiques.
Complètement, ouais, c'est l'idée. Quand on a créé d'abord Radio Debout et ensuite Parleur, on s'est vraiment aperçu qu'il y avait une question qui nous titillait. Nous, on était tous pigistes dans des gros médias. Moi, je travaillais à RMC, par exemple, en 2016. Une ligne éditoriale assez différente de la nôtre aujourd'hui. Et on était tous classés vraiment comme les journalistes gauchistes, quoi, alors que c'était pas... genre, donc, c'est-à-dire, le sujet sur les migrants, tiens, c'est pour toi. Et c'est souvent le dernier sujet un peu qui est traité ou proposé. Il y a des journalistes économie, il y a des journalistes culture, enfin pas trop RMC, mais le sport, etc. Et tout. Et voilà, il n'y a pas de journalistes mouvements sociaux. Non, on trouvait que c'était une manière ratée de le traiter et on en avait un peu marre de voir ce traitement des gros médias sur les mouvements sociaux qui était seulement dans sont-ils violents, sont-ils pas violents, vont-ils continuer à nous bloquer, nous empêcher de prendre le métro. On le voit ces derniers jours, hein, on enregistre aujourd'hui à la veille d'une énorme manif qui s'annonce contre la réforme des retraites. Et la plupart des actions, c'est ça, c'est quelles perturbations, est-ce qu'on doit avoir peur pour les vitrines des banques et autres. Pas que ça, bien sûr, mais voilà. Donc nous, on avait envie de dire, ces mouvements sociaux, ils sont hyper variés, c'est des causes hyper variées, féminisme, écologie, lutte syndicale, lutte salariale, etc. Et en fait, on peut leur donner la parole, on peut parler depuis en sympathie avec ces mouvements sociaux, on peut parler depuis ces mouvements, depuis ces cortèges, depuis la rue, sans forcément être l'outil de vente de ces mouvements. On peut les critiquer, on peut les analyser, on les traite de manière journalistique, mais on revendique voilà, d'être une voix de ces mouvements-là et de proposer une analyse qui sort de ces mouvements-là, fait par les militantes, les militants, les chercheurs qui travaillent dans ces mouvements. Et pour nous, c'est important et on a l'impression que ce n'était pas le cas avant. On a apporté quelque chose.
Ce que tu disais, quand tu étais à RMC notamment, dès que tu t'intéressais à ces mouvements-là et que tu les voyais sous un autre prisme que celui de la violence des débordements, tu étais tout de suite traité de journalo-gaucho ?
Non, c'est pas, ça se dit jamais comme ça. Jamais
ça se dit jamais comme ça, ça se dit comment ?
On traite de journalo-gaucho, c'est juste tu sens dans le traitement des informations, dans la hiérarchie, que une lutte, je sais pas, je donne une lutte des femmes de ménage. Là, il y a eu des luttes de femmes de ménage très fortes qui étaient victimes d'entreprises de sous-traitance. Et du coup, elles avaient très peu de droits sociaux. C'est des femmes noires, souvent issues de quartiers populaires. C'est sympa, mais ça excite pas ton rédacteur en chef, quoi. C'est pas vraiment ce qui l'intéresse. Et ça va passer après les dernières déclarations du ministre de l'économie, après le résultat du foot, après peut-être les motards qui râlent. Enfin, voilà, pas après tout, quoi, quasiment. Et pourtant, nous, ça nous semblait être des choses importantes. Ça raconte beaucoup de choses de notre société. Et quand on parle des classes les plus populaires, en racontant leur traitement, on raconte aussi comment on fait société ensemble. Donc, on avait vraiment ce sentiment-là. Et à chaque fois qu'on essayait d'amener ces sujets en conférence de rédaction ou discrètement entre la poire et le dessert, parce que typiquement, à RMC, il n'y a pas de conférence de rédaction, pour donner un exemple, ouais, super, ça fait 10 fois que tu nous parles des camps de migrants. Ça fait 20 ans qu'il y en a, des camps de migrants, ça ne change jamais. Donc, tu vois, et c'est difficile à vendre, c'est difficile à amener, notamment dans des gros médias mainstream comme ça.
Et donc, justement, création de Radio Debout puis Radio Parleur en réaction à ça, j'imagine, si j'ai bien tout saisi. Donc, médias indépendants, ça veut dire quoi, indépendant, surtout quand tu le mets en face de ce mot que tu as dit, mainstream ?
Indépendant, bah déjà, ça veut dire qu'il n'y a pas de milliardaire qui possède le média. Là, quand même, tous les médias que j'évoquais depuis tout à l'heure, RMC, BFM, Haute, etc., sont possédés, bah, en l'occurrence, par le même milliardaire qui s'appelle Patrick Drahi, patron de SFR, qui est une entreprise de télécommunications. Je peux en citer d'autres. Hein, les milliardaires concentrent 90% des médias aujourd'hui en France.
Bolloré.
Donc, voilà, Bolloré, Xavier Niel aussi, Daniel Kretinsky, si je fais la liste. Ils ne sont pas tant que ça, mais ils sont là. Bernard Arnault, qui possède beaucoup de médias à travers LVMH, qui est aussi l'homme le plus riche du monde. Donc voilà, il y a cette influence-là qui est très forte, cette concentration dans des médias dans les mains de quelques fortunes. Être indépendant en face, c'est dire ok, on va sortir de ça, on va sortir de ça, on va poser une information qui n'est pas influencée par ces capitaux financiers et qui ne dépend que des auditeurs auditrices, que des lecteurs. Mediapart dit souvent seuls nos lecteurs peuvent nous acheter. C'est vraiment ça. Je pense, moi, j'ai vraiment la sensation que ça nous permet de traiter des sujets dans des angles qui n'étaient pas possibles en fait dans les médias où je travaillais avant. Typiquement, là, on vient de faire une grande émission sur le football populaire, une autre manière de voir le football après le naufrage du Qatar, on va dire, le naufrage moral en tout cas du Qatar et de la Coupe du Monde. Ça me semble très difficile à proposer. On parlait d'RMC, ça aurait été très difficile à proposer à RMC parce que la Coupe du Monde au Qatar, ça a été un de ses fonds de commerce et c'était un grand moment pour RMC, c'est un grand moment d'audience. Faire des reportages qui disent en fait ils tuent des ouvriers, etc. et tout. Il y en a sans doute eu dans les journaux, j'ai pas écouté tous les journaux d'RMC, mais ça dépassera pas ça. On fera pas une heure et demie de l'after foot ou autres, ces grandes émissions sportives là-dessus. Donc, voilà, l'indépendance, ça nous permet d'aborder ça et de faire nos choix.
Et l'indépendance, ça a un prix, tu l'as dit. Seuls nos lecteurs et lectrices peuvent nous acheter. Il y a tout un modèle économique. Ce modèle économique, est-ce qu'il est florissant ?
Non, il est difficile, on va pas se mentir.
Il est difficile.
Ce qui est florissant, c'est qu'il existe, déjà, de réussir à le construire sans avoir besoin, comme d'autres médias, parce que ces médias mainstream qu'on cite, ils sont quand même beaucoup à aller régulièrement revenir à la soupe auprès de leur milliardaire et dire est-ce que tu peux remettre au bout de l'argent, même s'il y en a qui sont bénéficiaires comme Le Monde ou autre, mais c'est quand même difficile. Nous, il marche, c'est-à-dire qu'il est à l'équilibre, on arrive à faire tourner une petite rédaction, voilà. Mais il est difficile sur deux choses. D'abord, faire comprendre que faire un média en accès libre, c'est pas faire un média gratuit. Ça veut dire accès libre, ça veut dire que nous, on estime que c'est important que tout le monde puisse accéder à nos contenus. D'ailleurs, ils sont en Creative Commons, c'est-à-dire qu'on n'a pas de droit dessus. Mais par contre, en accès libre, ça veut dire que ça coûte de l'argent quand même à produire et que ça ne se peut pas se faire sans le soutien des auditeurs, auditrices, lecteurs, lectrices pour d'autres médias. Et du coup, on rappelle ça tout le temps. Voilà, on rappelle les coûts, par exemple, très régulièrement. Voilà, pour faire cette émission, il a fallu se déplacer. Je parlais de notre émission sur le foot populaire, j'ai été à Toulouse. Il a fallu que je me déplace à Toulouse, qu'on paye un réalisateur. Voilà. Il y a plein de choses qu'on doit faire comme ça. On essaye de faire prendre conscience aux gens d'une chose qui est difficile, parce que dans les années 2000, je pense que les médias ont vendu gratuitement leur information et ont fait une erreur énorme. Nous, on essaye de rattraper cette erreur en disant bah non, c'est accessible, mais sans vous, on va s'arrêter et on ira travailler pour les milliardaires et on ne pourra pas continuer à vous proposer quelque chose de différent. Donc ça, c'est un premier boulot. La deuxième, c'est de ne pas compter que là-dessus. Les dons, l'année dernière, c'était 30% des revenus de Radio Parleur et de son association qui s'appelle La Porte à Côté qui édite le média Radio Parleur. Ensuite, voilà, on a dû trouver d'autres sources de financement. Il y a des subventions de fondation, il y a des subventions publiques. Il y a aussi de l'éducation aux médias énormément, auprès de jeunes, de moins jeunes, de scolaires, dans des centres sociaux. Ça nous semble en plus une part du journalisme moderne. Nous, on a beaucoup la sensation qu'on demande à une génération de soutenir les médias sans jamais leur avoir appris comment ça marchait. Un peu comme si tu devais parler anglais sans jamais avoir pris de cours d'anglais. Du coup, on essaie de jouer ce rôle-là aussi par la radio, comme le font beaucoup de radios associatives d'ailleurs au final, et d'apprendre notre truc classique. C'est on arrive, tu as une classe, elle n'a jamais fait de radio de sa vie, et au bout d'une vingtaine d'heures, d'une quinzaine d'heures, selon les moyens du projet que tu arrives à développer, et ben, elles font leur propre émission, et c'est vraiment cool ça.
Alors justement, ce modèle économique, comment fonctionne économiquement Radio Parleur ? C'est assez transparent. Lorsqu'on va sur votre site internet, je le rappelle, radioparleur.net, dans la rubrique « Qui sommes-nous ?», on trouve un onglet « Notre modèle économique » où on voit justement tous ces chiffres que tu as donnés. Hein. Les dons, c'est... Alors sur l'infogramme que je vois, c'est 11%, 52% de subventions, voilà, vente de prestations de services et aide à l'embauche. Et de l'autre côté, on a « Où va l'argent ?». Tu le disais, de la production de reportages, la production enfin, du déplacement, du paiement de salaire, parce que vous êtes une équipe de combien de salariés ?
Aujourd'hui, on est 4 salariés. Ouais.
Donc, charge du personnel, c'est 67% du budget qui va là-dedans.
4 salariés, un apprenti qui est en fait aussi un salarié, donc ça fait 5, et 2 services civiques.
Donc, il y a vraiment aussi le fait de se reposer sur des volontaires en service civique pour pouvoir aider. Est-ce que c'est une force ou est-ce que finalement, ce ne serait pas représentatif d'une faiblesse de ressources humaines en fait, que
les services civiques ?
Ouais.
Non, nous, on a essayé de le voir comme une force. C'est sûr qu'on préférait embaucher les gens tout de suite, mais nous, ça nous permet souvent d'amener des bénévoles impliqués dans le projet vers une nouvelle étape d'implication dans le projet et de soutenir aussi leur montée en compétences. Tu disais se reposer sur un service civique. Non, on ne se repose pas sur un service civique. C'est vraiment important, ça. Par contre, il apporte des choses encadré par un salarié. Et voilà, là, on a un service civique qui soutient notre chargé de com sur la production de contenu sur nos réseaux sociaux. On peut le voir notamment sur notre Instagram où il bosse beaucoup sur des templates, des images particulières, etc., pour essayer de rendre ça beaucoup plus sympa et pédago. On a une service civique qui travaille avec nos bénévoles pour les accompagner et tout, etc. Voilà, le but, c'est vraiment d'avoir des gens qui sont un peu bonus, mais qui apprennent aussi avec nous. Voilà, typiquement, notre service civique chargé des bénévoles, elle n'avait jamais fait de radio avant, et là, peu à peu, elle prend des compétences radio de plus en plus. C'est très important pour nous, y compris aussi pour notre apprenti, même si lui, on lui demande plus, parce qu'il est déjà dans une école de journalisme, etc. Enfin, on essaye de graduer la chose, mais nous, c'est très important que ces postes-là ne soient pas des salariés à plein temps déguisés. Ce serait un gros raté pour nous.
Et justement, tu disais que tu aimerais bien pouvoir ensuite embaucher ces personnes. Est-ce que c'est facile d'agrandir indéfiniment cette équipe salariée ?
Non, c'est pas facile, c'est assez compliqué, c'est toujours un peu un pari, parce que ça augmente une charge de personnel qui est forte, hein, qui représente quasiment 70% de ce qu'on paye, les humains, il faut les rémunérer, et en même temps, c'est ce qui apporte le plus aujourd'hui. Non, c'est limité, clairement. Aujourd'hui, 4 salariés, c'est le maximum de ce qu'on a pu faire, et pour l'instant, sauf énorme augmentation des dons ou d'autres prestations, on voit qu'on commence à faire aussi des podcasts pour d'autres structures, des ONG notamment. Ouais, il faudra passer par là, mais notre difficulté première, elle est celle de plein de médias aujourd'hui, c'est d'être rémunéré principalement pour du journalisme et non pas faire des podcasts pour d'autres, choper des subventions, etc. Et aujourd'hui, si on était payé que pour du journaliste, c'est-à-dire que pour nos dons, on ne pourrait pas avoir 4 salariés, etc. Donc, on est obligé de trouver des équilibres, de faire feu de tout bois, comme on dit, pour ensuite pouvoir produire, proposer des choses et être utile quoi, aux mouvements sociaux.
Est-ce qu'on peut parler de précarité des médias indépendants aujourd'hui ?
Oui, je pense complètement. Ça dépend lesquels. Hein. Il y en a quelques-uns qui ont réussi à passer la barrière. Mediapart, bien sûr, qui est un peu le modèle absolu, même si c'est un modèle d'abonnement. Mais je pense à Reporter, TE2RE, qui aujourd'hui fonctionne à 98% avec du don et est bénéficiaire. Certains ont réussi. Street Press vient de réussir une très belle campagne de don à 100 000 euros. J'ai l'impression que voilà, derrière ces 3-4 qui réussissent à produire des choses et qui restent encore petits, hein, Reporter, pour vous donner une idée, c'est 17 salariés en équivalent temps plein, on doit être sur 12-13. C'est bien, hein, c'est super, mais c'est rien du tout par rapport à une rédaction comme Le Monde ou comme Libération. On n'est même pas à 10% du nombre de journalistes. Donc voilà, c'est encore des petites choses, mais ça se renforce. Après, on ne va pas se mentir, la conjoncture actuelle est difficile pour nous, notamment dans le don, nous on l'a senti hein, cette année. Pour être honnête avec vous, on visait 25 000 euros de dons et on en a eu 12 600 pour plein de raisons. Mais entre autres, pour une raison, c'est qu'avec l'inflation, avec les difficultés, on a quand même des donateurs et donatrices qui se disent entre acheter des pâtes et soutenir un média, pour l'instant, on va acheter des pâtes. Et on ne peut pas trop leur reprocher. Il y a plein de manières de faire et d'essayer de leur montrer pourquoi c'est quand même important de soutenir des médias libres. Mais en ce moment, la conjoncture est difficile et le don, dans tous les domaines d'ailleurs, hein, je crois que des très gros assos comme Greenpeace ou comme les Restos du Cœur ont aussi subi ces baisses de dons. Donc on n'y échappe pas forcément.
Tu parlais tout à l'heure de faire des podcasts pour des ONG, c'est une opportunité ?
Ouais, en fait, on s'est beaucoup posé cette question parce que la question, c'est de ne pas tomber dans le public reportage. Déjà, il faut que rien n'ait sur Radio Parleur, c'est-à-dire que sur le site Radio Parleur, si vous nous écoutez, vous ne verrez jamais ce podcast a été payé par même une ONG, hein, par Greenpeace ou autre. Ce qui est par exemple le cas sur d'autres médias comme Binge, par exemple. Et je ne dis pas ça pour les pointer du doigt, c'est un modèle économique et c'est écrit, c'est sponsorisé par la Maïf, par je ne sais quoi, etc. Nous, on s'éloigne de ça, on pense que c'est nocif pour la qualité du journalisme et pour, on va dire, la confiance que les gens ont dans les médias. Par contre, on pense qu'on a une expertise aujourd'hui qui peut permettre à des associations, à des ONG, à des structures qui sont en accord avec nos valeurs. On ne va pas bosser pour Total, clairement, même si ça rapporterait beaucoup plus. On va pas bosser pour ça. Mais par contre, là, typiquement, on a bossé avec le CRID, qui est un gros groupe d'associations de solidarité internationale. On a bossé pour les Petits Frères des Pauvres. On a bossé pour des structures comme ça, qui nous semblent être en accord avec nos valeurs. C'est notre association La Porte à Côté qui bosse pour eux, ce n'est pas le média. Et ensuite, eux, ils produisent le contenu. Enfin, on produit le contenu pour eux et ils le diffusent eux-mêmes. Et on est cachés, quoi. Il n'y a vraiment pas d'idée de se faire une pub éditoriale là-dessus. Par contre, nous, ça nous permet à la fois de faire des trucs intéressants. Le CRID, on a fait un énorme travail avec des militants et autres pour qu'ils racontent leur travail au sein des assos et c'était super. Et à la fois, c'est un bel outil de rémunération de nos salariés.
Tu parlais de publi-reportage. Alors peut-être pour les personnes qui nous écoutent, qui ne sont pas forcément habituées à ce type de terme, qui est assez propre à nos rédactions, est-ce que tu peux expliquer rapidement ce qu'est un publi-reportage ?
Très simplement, un reportage qui est payé par une structure publique ou privée et qui paraît dans les colonnes de votre journal ou dans les podcasts de votre studio de podcast préféré, etc. Je peux vous donner un exemple. Le Parisien fait régulièrement sur son site internet. C'est écrit en gros, cet article n'a pas eu recours à la participation de la rédaction. Il y a un encadré, ensuite c'est ça. Voilà, c'est typiquement quelque chose qu'on peut retrouver régulièrement. C'est des fois assez flou, notamment dans la presse régionale écrite. Des fois, il faut quand même lire dans un coin qu'en fait, cet article a été payé par le boulanger du coin.
Et est-ce que justement, le publi-reportage, c'est pas aussi une voie, une frontière floue vers aussi la complaisance ?
Oui, c'est tout simple. Hein, mais là, on retombe aussi dans l'indépendance des médias. Si quelqu'un paye pour avoir un reportage, et c'est de la communication et il a droit. Puis nous, quand on travaille en dehors de notre média avec des ONG, elles ont un droit de regard final sur le podcast. C'est normal. Elles nous payent pour ça. Du coup, c'est la même chose. Là, le problème, c'est que ça rentre dans les journaux et d'un coup, vous avez trois pages d'articles pour prendre la presse écrite fait par le journal local. Et la quatrième page, vous n'en apercevez pas, mais ce n'est plus une page faite par le journal local, c'est écrit pour, je ne sais pas, l'entreprise du coin ou autre. Et ça, c'est hyper important d'être prudent là-dessus.
Donc l'indépendance a un prix. Donc auditeurs, auditrices de Radio Campus, si vous souhaitez soutenir Radio Parleur dans leur démarche et découvrir leur reportage, allez sur leur site, c'est radioparleur.net. On peut faire des dons toute l'année.
Oui, on peut faire des dons toute l'année. Et petite cerise, petit appât que j'espère motivera les gens, c'est que c'est défiscalisé à 66%. Ça veut dire que si vous nous donnez par exemple 10 balles, vous en récupérez 6,50 euros quand vous payez vos impôts, ce qui est toujours agréable.
Voilà pour cette première partie de cet entretien avec Martin Baudrero, qui est journaliste à Radio Parleur sur radioparleur.net. Vous pouvez également retrouver toute leur actualité. Demain, on le retrouvera autour d'un autre thème. Et également, donc, j'étais accompagné de Léo, qui est bénévole ici à Radio Campus. Il est étudiant en première année de licence. Il lui posait quelques questions, notamment sur la relation que peuvent avoir des médias indépendants lors de manifestations. Vous êtes toujours à l'écoute de Radio Campus. Il est 12h34.
Écoute.
Est-ce que vous vous sentez chanceux ? En tout cas, vous pouvez lancer une pièce Through a Coin de Hogan Vassar dans Écoute ta fac.
Look for reflections in the water.
Si toi aussi tu veux rejoindre l'équipe d'Écoute ta fac ou de Radio Campus,
bah ouais, on peut.
Rendez-vous dans nos studios 4 rue de Tours, 45 100 Orléans, La Source.
Ah, pas mal!
Voilà, FKC de Minimal Orchestra. Minimal Orchestra qui est un groupe qui est tout neuf, hein, qui a vu le jour au cours de l'année dernière avec des rythmes d'électro-jazz, composé d'un ancien duo qui était formé de Tom Terrien qui est à la machine et au clavier et de Pierre-Jean Trouette contrebasse basse, donc un ancien duo qui a été rejoint par trois autres membres, ils sont cinq au total, donc rejoint par Thomas Koenig au saxophone et à la flûte, Nicolas Algans à la trompette et Florent Hortal à la guitare. Voilà, donc leur tout premier album est sorti à l'automne dernier, c'était Lift Off, le nom de l'album. On s'en va maintenant pour les États-Unis, une toute autre époque. Hein. On est dans plein cœur des années 50, à une époque aux États-Unis, vous le savez, où la ségrégation était de mise, blanc et noir étaient séparés. Nesrine, qui était en stage avec nous la semaine dernière, revient sur le parcours, le portrait, la vie d'une figure emblématique du Civil Rights Movement. Il s'agit de Rosa Parks.
Rosa Parks, le 14 février 1913, en Alabama, Leona McCauley donna naissance à une fille qu'elle appela Rosa Louise McCauley, sans savoir que ce nom allait rester gravé dans l'histoire à tout jamais. C'est entre autres grâce à elle qu'aujourd'hui les citoyens américains sont égaux, quelle que soit leur couleur de peau. Sa mère, institutrice, avait à cœur de lui transmettre les valeurs de la liberté et de l'égalité. Mais en grandissant, elle comprit que la vraie vie ne suivait pas ces règles-là. Durant son enfance, elle grandit dans une ferme avec sa maman et sa grand-mère. Jusqu'à ses 11 ans, sa mère lui fait école à la maison. Puis, elle fait son entrée dans une école où filles et garçons étaient séparés, ainsi que les noirs et les blancs. Elle s'y rendait à pied, car les bus étaient réservés aux blancs. En effet, à cette période, il y avait ce qu'on appelait la ségrégation raciale, ce qui veut dire que les noirs n'avaient pas les mêmes droits que les blancs, donc étaient plutôt désavantagés par rapport à eux. Ce sont les lois de Jim Crow. Separate but equal, séparés mais égaux, en vigueur depuis 1877. Dès qu'elle fut assez grande, Rosa quitta sa ferme ainsi que sa famille pour aller étudier dans la ville de Montgomery où elle y rencontra Raymond Parks, un militant au sein de la NAACP, la National Association for the Advancement of Colored People, l'Association nationale pour la promotion des gens de couleur, qui est une association qui lutte pour les droits des Noirs. Mais malheureusement, elle dut stopper ses études pour soigner sa mère et sa grand-mère car elles étaient tombées gravement malades. En 1932, après avoir demandé sa main, Raymond l'encourage à reprendre les études, afin de prouver que les Noirs sont tout autant intelligents que les autres. En 1934, elle fut diplômée, mais malgré son haut niveau intellectuel, elle doit se limiter à son poste de couturière. Puisqu'elle est noire, personne ne veut lui confier un poste important. Le 1er décembre 1955, alors qu'elle était assise à l'avant du bus sur un siège réservé aux blancs, elle refuse d'obéir au conducteur qui lui demande de laisser sa place à un blanc pour aller s'asseoir au fond du véhicule, là où les noirs avaient leur place. Ce geste a fait d'elle un personnage gravé dans l'histoire. Cet événement a eu pour conséquence un boycott des bus de la part des noirs pour soutenir Rosa qui, elle, a passé quelques heures en prison avant son procès. Après ça, personne n'a accepté de l'embaucher et son mari s'est fait licencier. Rosa, Martin Luther King et d'autres personnes fondent le mouvement des droits civiques. En 1964 fut signé The Civil Rights Act par le président Lyndon B. Johnson, ce qui fait que la discrimination est désormais interdite, donc les lois de Jim Crow ont été supprimées. Le 24 octobre 2005, elle décéda malheureusement d'une maladie neurodégénérative.
Voilà pour cette première chronique réalisée par Nesrine. Demain, on la retrouvera également même lieu, même heure sur Radio Campus Orléans. Elle reviendra avec nous sur une autre femme qui a marqué donc, le XXe siècle. Il s'agit de Mata Hari. Donc là, on n'est plus sur la première moitié du XXe siècle. Évidemment, cette chronique ainsi que la suivante, également notre première partie d'émission, sont à retrouver dès demain en réécoute sur le site de Radio Campus Orléans. Continuons en musique avec une artiste, une habitué de la programmation de Radio Campus, il s'agit de Uzi Freya. Uzi Freya qu'on a eu l'occasion de faire jouer en showcase, c'était sur Opopop en septembre dernier, l'avoir en interview. Tout ça, vous pouvez le retrouver sur notre site orleans.radiocampus.org. Dans ses musiques, elle chante la fierté d'être noire lors de son showcase sur Opopop. Je vous propose d'écouter un de ses titres, Dabunda. Shake it, shake it, shake it, shake it. Wabo, 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 wabo. Look back, do a split, eye contact, bitch you lit. Make the ass clap in the party, bitch you lit. Make the ass clap in the party, bitch you lit. Make the ass clap in the party, bitch you lit. Make the ass clap in the party. Nigga, 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 me and my bitches don't have a time for this kind of bullshit. Period. Nigga, 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 me and my bitches, we don't fight for fake niggas, we fake your bitches. Don't call me ho, got you girls, got you woes. Yeah, call me master when I walk on your balls. Or I will slap you so hard, disappear. You can call FBI, porté disparu. Nah, who was lit? Nah, who was lit?
Let me think.
Nah, who was lit? I guess me.
bounce, 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 bounce. Shake it, shake it,
shake it, shake it.
Beat you lit,
beat you lit.
I said beat you lit,
beat you lit.
Bounce, bounce,
bounce, bounce.
Shake it, shake it,
shake it, shake it.
Beat you lit,
beat you lit.
Follow all your men, I steal his dick in quad like a hoe. Now what's the bitch? I'm all on fleek, I be flying this league. Now fuck your lead, but join the freak. Now ram me, bam, like you was a big. You wanna fucking like a speak? I'm bad to fuck this game. It's Uzi Freya, I'm the bitch. You wanna call me ho? But you know I'm cold. Coming close, you know I'm a boss. I take your shit to battle for. He said he got a digger like a horse. But his stuff is so goddamn small. I'm gonna go divorce.
I hope you are ready for the last part.
Eye contact, bitch you lit. Bounce, 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 bounce.
So take a look.
Shake it, shake it, shake it, shake it.
So take a look.
Wobble, 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 wobble.
So take a look.
Look back, do a split. Eye contact, bitch you lit. You make the ass clap in the body.
Bitch you lit.
Make the ass clap in the body.
Bitch you lit.
You make the ass clap in the body.
Bitch you lit.
You make the ass clap in the body.
Drummy de Juke Bounce Werk sur Radio Campus Orléans. On enchaîne avec un dernier titre avant de se quitter. Voices of the Past de Tom Skinner. Dans Écoute ta fac. À tout de suite. Voices of the Past de Tom Skinner sur Radio Campus Orléans. Un petit tour sur la programmation des prochains jours de Radio Campus Orléans. Sur la rédac pop, le blog de l'expression citoyenne et participative de Radio Campus Orléans, vient de paraître hier un article autour de l'abolition de l'esclavage en 1848. Un article qui vous est proposé par l'un de nos nouveaux rédacteurs, Steven Mirodin. Donc allez checker ça, c'est sur laredacpop.org. Et évidemment, Apéro Audio, hein, vous l'entendez à l'antenne de Radio Campus Orléans depuis plusieurs jours maintenant, se donne rendez-vous ce vendredi à partir de 19h au 108 de la rue de Bourgogne pour un apéro audio spécial, la grande Trip Alliance Internationale de l'Est, c'est assez dur à dire, donc un collectif de musique expérimentale électronique qui est né à la fin des années 2000 dans l'Est de l'Europe, et on fera jouer plusieurs de leurs artistes CX, AXB et Acid, et avec en méga bonus Alexia Jeunesse que vous connaissez au travers de l'émission In The Garage qui elle-même programme l'apéro audio Girls In The Garage qui arrivera évidemment en avril prochain. Donc ça sera ce vendredi au 108 de la rue de Bourgogne, 19h à Apéro Audio. Vous retrouverez toutes les actualités sur notre site, c'est orleans.radiocampus.org. Et cet après-midi, à partir de 17h, une turbulence spéciale. On sera en direct depuis le hall du Théâtre d'Orléans à l'occasion de ce soir de la diffusion du spectacle Le Cri du Caire et Médéric Collignon qui nous plonge il y a 10 ans, fin 2013, dans la ville du Caire qui, à ce moment-là, était en pleine ébullition puisque c'était au cœur du printemps arabe. On aura l'occasion de recevoir ces artistes, les interviewer avant d'aller les voir en spectacle sur scène au Théâtre d'Orléans. C'est programmé par la scène nationale d'Orléans. Donc vous pouvez nous écouter en direct de 17h à 18h pour cette turbulence spéciale. Suivi à 18h de Roll Mops, puis de Alors on se fait un film. 20h, 21h, c'est La First. Et jusqu'à minuit, la classe internationale qui, la semaine dernière, recevait Renaud Debac, le directeur de la scène nationale d'Orléans, qui d'ailleurs nous accueille, donc cette même scène nationale d'Orléans, tout à l'heure à partir de 18h. Vous pouvez réécouter la classe internationale de la semaine dernière sur notre site orléans.radiocampus.org.